Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a ici ce matin, Seigneur, dans la louange, dans la prière, dans les témoignages, puis aussi dans ta parole, Seigneur. Puis je te remercie de l'œuvre que tu fais dans nos vies pour nous changer, nous modeler, nous transformer, puis nous ajuster à ta parole pour qu'on puisse marcher dans le chemin dans lequel tu nous as appelés, Seigneur, à prendre la porte étroite puis le chemin resserré qui mène à la vie. Puis garde-nous dans ce chemin-là, Seigneur, qui est la parole de Dieu, qui est le chemin de Jésus-Christ. On veut rester fidèle, on veut garder la foi jusqu'à la fin. Fortifie-nous et donne-nous de réaliser ce que tu nous enseignes pour qu'on puisse prendre garde puis avoir de l'assurance en toi. On met nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir un partage de la parole de Dieu sur un sujet qu'on a déjà parlé, mais quand même, ce que Dieu veut nous montrer ce matin, c'est nous faire réaliser que tout le monde sur la planète a un ennemi public numéro un. Dans la liste des ennemis, pas juste des chrétiens, c'est l'ennemi aussi de l'ensemble de l'humanité, un des ennemis, une des choses qui est présente depuis le début de la création, et à cause de cela, des milliards et des milliards de personnes meurent et sont séparées de Dieu pour l'éternité. Le péché. Un ennemi public numéro un aujourd'hui, puis c'est pas de tout temps, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché face à ce que la parole de Dieu nous enseigne? Le péché, c'est la transgression de sa parole, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Dans 1 Jean 3, 4, on voit ça, que quiconque pêche transgresse la loi, puis le péché est la transgression de la loi. Chaque fois qu'une personne désobéit à Dieu, elle est dans le péché. Dieu, quand il établit ses commandements, il n'a pas commencé qu'à la loi de Moïse. Depuis le début de la création, il a décrété des choses comme des choses à ses créatures, comme un exemple. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est un commandement à toute la création, ça. Que ça soit de pas manger le sang animal, c'était au début de la création, c'est pas dans la loi de Moïse. Ça existait depuis le début. Mais il y a des principes comme ça, des règlements que Dieu a établis dans la vie depuis le début de la création, puis qui ont été repris dans la loi de Moïse, puis qui ont été comme les 10 commandements. Puis là, il y a eu les 613 préceptes de loi. C'est des principes qui sont là comme pour amener la volonté de Dieu, en général, la pensée de Dieu. Puis chaque fois qu'un humain sur la terre n'est pas entièrement soumis à cette volonté-là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il est pécheur. Il transgresse la loi. Il transgresse les commandements de Dieu. Il transgresse la parole de Dieu. Puis, quand on transgresse, c'est appelé péché. Quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce que Dieu dit. Si Dieu dit « fais ça », faut le faire. S'il dit « fais ça » puis on le fait pas, on est pécheur. Puis s'il dit « fais pas ça », puis on le fait, on est pécheur. Puis s'il dit « fais pas ça » puis on le fait pas, on obéit. Gloire à Dieu. C'est clair, le péché, c'est de transgresser. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le péché est une puissance qui mène le monde. Présentement, le monde entier est mené par la puissance du péché. Lorsque nous aimons désobéir à Dieu, c'est le péché en puissance. Puis il n'y a pas juste nous autres qui avons à faire face, c'est l'ensemble de l'humanité. Chrétien, pas chrétien, peu importe la religion que tu as, si nous transgressons la parole de Dieu, du Dieu révélé dans la Bible, nous péchons contre Dieu, le Créateur de toutes choses. Le premier péché qui a été commis dans ce monde, tout le monde le sait, c'est par Adam et Ève. C'était leur désobéissance. Dieu avait dit, tu peux manger de toutes les arbres du jardin, mais l'arbre qui est dans le milieu du jardin, qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit la conséquence du péché. À cause d'Adam et Ève, le premier péché a entraîné la mort physique et spirituelle de l'ensemble de l'humanité. C'est ce que ça dit dans Romains 5, 12. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par un seul homme, la mort physique et la mort spirituelle est entrée dans le monde, puis ça l'est entraîné à l'ensemble de l'humanité, puis ça s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. On a les fruits tous les jours, comment est-ce que le péché est agissant dans la nature humaine. Tous les hommes pêchent. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Puis que ce soit dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos agissements. Nous transgressons quotidiennement la parole de Dieu. Puis là, à cause de ça, suite au péché d'Adam et Ève, d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela a eu comme conséquence que nous avons maintenant une nature de péché et cela nous amène à en commettre encore davantage. Parce que cette nature-là qu'on a reçue de nos ancêtres, ça vient d'Adam et Ève. Nous avons dans notre pensée la connaissance du bien et du mal à cause de l'arbre qu'ils ont mangé. On n'aurait pas ça s'ils n'auraient pas mangé. Mais à cause qu'ils l'ont mangé, ça s'est transmis, puis aujourd'hui je connais le bien et le mal, et aujourd'hui je peux décider ce que je pense bien, ce que je pense mal, peu importe ce que Dieu dit, je peux décider moi-même ce que je décide qui est bon ou pas bon. Mais comme la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. L'idée, c'est, nous avons la capacité d'analyser les choses, puis de penser que ça peut être bien ou penser que ça peut être mal, mais ça vient de la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait pas qu'on ait ça. Il avait défendu Adam et Ève de le prendre. Il voulait juste qu'on obéisse tout simplement sans transgresser ce que lui déclare. Maintenant qu'on a ce raisonnement-là dans notre pensée, on analyse ce que Dieu dit. Oh, ben, c'est pas si tant pis que ça. Dieu déclare une affaire, puis là, on argumente avec Dieu, puis on décide que c'est pas aussi grave que comme Dieu l'a décidé, puis on pense que ça arrivera pas, ou on le fait, puis regarde, je l'ai fait le péché, puis il m'est rien arrivé, puis c'est un peu comme Adam et Ève quand ils étaient devant le fait accompli. Là, il est encore là, la seule affaire qui avait changé, c'est qu'ils comprenaient le bien et le mal, puis ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Mais il y avait aussi une gêne, une peur de Dieu. Il y avait comme de quoi qui était plus proche de Dieu, puis il y avait peur de Dieu. Quand la voix est venue dans le jardin, la voix de Dieu qui dit « Où es-tu? » L'autre, il dit on a entendu ta voix, mais on a eu peur. Puis on était nus, puis on a décidé de se cacher. Puis là, il lui a dit « Qui vous a dit vous étiez nus? Avez-vous mangé de l'arbre que j'avais dit de pas prendre? » Puis c'est là les conséquences s'accumulaient. Il était déjà séparé d'avec Dieu. Il avait peur de Dieu. Puis là, il se sentait comme dans la honte ou dans la peur ou dans la crainte de Dieu. Puis toutes les autres conséquences, c'est qu'ils ont été rejetés de la présence de Dieu. Puis ils n'ont pas eu le droit de manger de l'arbre qui donnait la vie éternelle, ce qui a fait que ça l'a entraîné la mort physique à l'ensemble de l'humanité. On était privés de l'arbre de la vie éternelle. Fait que la mort spirituelle et la mort physique, ils ont entré dans le monde en Adam, puis à cause de cela, nous avons hérité de nos pères ce que nous sommes, des natures attirés au péché, vendus au péché, esclaves du péché, qui produit des péchés à journée longue. Nous sommes comme ça par nature. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2:3. Nous tous, on était de leur nombre. Là, il parle des fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'était naturel, tu mets quelqu'un au monde, il est déjà dans une nature de péché, puis il est déjà sous la colère de Dieu, parce qu'il est séparé d'avec Dieu à cause de sa nature qu'il a, puis toute sa vie va produire des fruits de mort devant Dieu. Toute notre vie, on a un désir d'accomplir notre volonté. La volonté de notre pensée puis la volonté de notre corps. Puis c'est un ennemi pour chaque être humain parce qu'on se rend pas encore compte comment est-ce que c'est grave le péché puis ça a de graves conséquences. Là, la Bible nous dit un peu plus loin dans Romains 3:9 que le monde entier est sous l'empire du péché. On le sait qu'il y a un autre verset qui dit qu'on est, que le monde entier est sous l'empire du diable. Oui, le diable mène le monde. Mais le monde entier est aussi sous l'empire du péché. Le péché est un roi qui règne présentement sur l'ensemble de l'humanité. Dans Romains 3:9, là, il est en train de débattre qu'est-ce qu'il y a de différence entre les Juifs et les Grecs. Il dit, « Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. » Fait que, imaginez-vous que c'est puissant, cet empire-là, parce que c'est un empire qui règne depuis le début de la création, puis qui a des conséquences terribles sur chaque être humain qui vit dans ce monde. Le péché ne vient pas de Dieu. Dieu, en plus, ne peut pas être tenté par le mal. Si on voit ça dans Jacques 1:13, parce qu'il y en a qui vivent des tentations, puis ils vont dire, c'est Dieu qui me tente. Non, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui te tente. C'est qu'il y a une situation dans laquelle où ce que tu te trouves et ton corps est attiré par cette tentation. Mais c'est pas Dieu qui a produit la tentation. Dans Jacques 1:13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Quand que nous sommes tentés, ça peut être un piège du diable, ça peut être un piège du monde, de ceux qui nous entourent, qui nous connaissent, puis ils nous tentent des pièges pour nous faire succomber. C'est déjà arrivé, m'emmener quand je travaillais au début de ma vie chrétienne. On était dans la cafétéria, puis on jasait avec les gens. Puis là, j'étais en train de lire ma Bible, puis là, il y a un gars qui dit « Hey, Daniel, c'est-tu écrit dans la Bible, ça? » Puis là, il y avait une revue pornographique qui me montrait la photo. Mais là, quand je me suis levé à la tête, j'ai regardé dans les yeux, j'ai pas regardé sa photo. Mais ça, c'est pour donner un exemple comment est-ce que le monde nous tend des pièges pour nous faire pécher. Mais le monde, le diable et notre chair sont attirés par le péché, mais c'est pas Dieu qui fait ça. Dieu fait pas exprès pour faire tomber les gens. Les choses sont là, puis quand on a une attirance, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est le diable, le monde ou ta chair. Puis dans ce verset-là, ça nous le dit, dans Jacques 1:14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est nous-mêmes, notre corps, qui convoite ce qui est devant là. La convoitise de la chair, convoitise des yeux, c'est des choses qui nous attirent dans ce monde puis nous emmènent à pécher. On peut dire qu'à Ève, même Adam, probablement, il était tous les deux là, quand ils étaient dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont considéré quand ils voyaient le fruit défendu? Il y avait de l'air bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire, ils ont trouvé des valeurs au péché. C'est pas Dieu qui les a inspiré ça. C'est eux-mêmes, par leur propre corps, qui sont amenés à des pensées de raisonnement, puis ils n'avaient pas encore la connaissance du bien et du mal, mais ils savaient déjà, ils pouvaient argumenter entre deux pensées, puis ils avaient le choix entre écouter ce que le diable venait de leur dire ou d'écouter ce que Dieu venait de leur dire. Dieu le dit, il dit, mange-en pas, parce que tu vas mourir. Le diable, il dit, tu mourras pas, tu vas devenir comme Dieu, puis tu vas pouvoir discerner toi-même ce qui est bien et qui est mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté le mensonge plutôt qu'écouté la vérité. Le péché est entré dans l'être humain, puis là, il y a eu les conséquences, comme je l'ai décrit tantôt. Là, verset 15, dans Jacques 1:14, le verset 14, nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est nos désirs de notre chair ou de nos yeux, de nos pensées qui nous attirent à aller vers le péché. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Oui, ça je le lis exactement dans l'autre verset de suite après. Nous devons pas prendre le péché à la légère. C'est grave. C'était grave avant qu'on vienne à Jésus-Christ. C'est encore aussi grave après que tu es sauvé. Faut pas penser que c'est pas grave. Dans Romains 6:23, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça l'a produit, ça a eu son efficacité en Adam et Ève, ça l'a produit la mort, puis l'ensemble de l'humanité est face à la mort spirituelle d'être séparé d'avec Dieu, puis la mort physique, un jour, ce qu'on va la subir, probablement, peut-être pas tous, si le Seigneur revient, il a promis l'enlèvement de ceux qui lui appartiennent, ils ne goûteront pas la mort, mais les autres, l'ensemble de l'humanité, nous devons faire face à la mort. Nous avons connu la mort de proches, puis nous allons en connaître encore la mort de gens qui sont proches de nous. Ça nous fait prendre conscience qu'on rigole pas avec le péché. C'est la conséquence directe du péché. Parce que si on aurait été en pleine communion avec Dieu dans le jardin d'Éden, mangeant de l'arbre de la vie éternelle, nous ne serions jamais malades, puis nous ne goûterions pas la mort physique. Tout ça est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde, puis la mort aussi. Ceux qui se livrent au péché, ils pensent d'avoir atteint une liberté. Les gens dans le monde qui connaissent pas Dieu, ils pratiquent de plus en plus de péchés, puis là, ils couchent avec les femmes, puis ah ouais, donc, puis là, ils se vantent de leur péché, puis ils pensent qu'ils ont atteint « Moi, je suis libre de toute loi », puis ils pensent qu'ils deviennent plus libres en se donnant plus d'ouverture à tout ce qui est devant eux. Mais ils se rendent pas compte qu'ils sont esclaves de leur péché. Parce que la vraie liberté aux yeux de Dieu, c'est que tu sois capable de vivre sans en faire des péchés. Ça, c'est la vraie liberté. Mais les gens se pensent libres en ayant une ouverture sur tous les péchés qui se présentent devant eux, puis ils courent, puis ils en recherchent des occasions sans arrêt à vouloir en faire de plus en plus. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont ignorants de la vie de Dieu, puis ils sont piégés par le monde, par le diable, par leur chair, puis ils sont livrés à une course effrénée vers la mort, sans s'en rendre compte. 2 Pierre 2,19, ça nous dit, en parlant des faux prophètes, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Quand tu es rendu livré dans tes péchés, t'es devenu un esclave de tes péchés. Ça l'a eu une victoire sur toi. Les gens pensent qu'ils ont une victoire en ayant une occasion de plus. C'est le contraire. À cause qu'ils ont profité des occasions de péché qui étaient devant eux, l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un, le péché, a une victoire sur sa vie, puis le tient captif dans ses chaînes, dans ses liens. Les gens sont liés par leur péché. Ceux qui se livrent au péché sont esclaves du péché. Ça, c'est Jésus qui a dit ça dans Jean 8, 34. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est grave parce que là, l'État entier, l'humanité entière, est esclave du péché, est dominé sous l'empire du péché, puis sont enchaînés, puis ils s'en vont tous à la mort éternelle. Paul y décrit, dans Romains 7, que même les gens religieux sont esclaves du péché. Wow! Paul y dit dans Romains 7, 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Wow! Là, on voit que même les gens religieux, des gens qui aiment Dieu, des gens qui veulent pratiquer le bien, font face encore à la puissance du péché qui est un de leurs ennemis. Sans s'en rendre compte, même si c'est une personne qui veut bien faire, tu vas avoir encore des occasions que ton corps, il veut profiter de toutes les occasions qui se passent devant lui. Puis t'as une lutte, t'as un combat, ta pensée veut servir Dieu, puis ton corps est attiré vers ce qui est du péché devant Dieu, de ce qui va te conduire à la mort. Nous sommes captifs de la loi du péché qui est dans nos membres. C'est une loi spirituelle qui a été intégrée dans l'homme, dans la nature humaine, puis chaque être humain a à combattre contre cela, à résister contre cela. Il faut le réaliser, puis il faut chercher l'aide à quelque part, l'aide qui nous est proposée de Dieu pour s'en sortir, sinon on est fait. Comment peut-on sortir du péché et de ses conséquences? C'est ça qu'il faut apprendre. Y a-tu des moyens, Seigneur, pour qu'on sorte du péché et de ses conséquences? C'est trop grave qu'est-ce qui se produit. Des milliards de personnes sont captives de leur péché puis s'en vont dans les temps de feu pour l'éternité. Romains 7, 24. Dans le même verset que je viens de vous dire que je suis encore esclave, même si j'ai ma pensée à vouloir servir Dieu, je suis encore esclave de la loi du péché. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Hallelujah! Par le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire sur le péché, la victoire sur ses conséquences. Amen! Hallelujah! Gloire à Dieu! Le Fils de Dieu a paru pour régler le péché et ses conséquences. Amen. Double amen. Gloire à Dieu. Amen au pluriel. Dans Hébreux 2, 17. En conséquence, en parlant de Jésus, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'ai dit tantôt que Dieu peut pas être tenté par le mal. C'est vrai. Mais Dieu a été fait chair. Il a dû venir dans sa création et venir connaître ce que nous vivions. S'il l'aurait jamais fait, on n'aurait pas pu dire, « Ouais, mais toi, t'es Dieu, c'est facile pour toi d'être sans péché. » Mais il nous a devancé dans notre raisonnement, il nous a même pas laissé la chance d'y dire qu'il a dit, « Attendez, je m'en viens. » Puis il a pris une chair identique à la nôtre. Sauf que son être intérieur venait du ciel. Il a laissé sa toute-puissance, son éternité, son omniprésence, son omniscience. Il a laissé cela, il est venu en forme d'un simple homme, comme un bébé qui naît, qui est sans défense. Puis qu'il était dans un corps pareil comme le nôtre, sauf qu'à l'intérieur, c'était le créateur de toutes choses. Qui s'était fait homme. Puis il fallait qu'il passe par là pour venir goûter les tentations, tout ce qu'on vit comme épreuve, comme combat, comme tentation. Il fallait qu'il passe par là pour être un souverain sacrificateur miséricordieux. En ayant venu dans la forme d'un simple homme, d'un humain, puis ayant goûté les tentations qu'il a vécues, puis ses épreuves, puis sa mort même, qui était une mort atroce, il peut comprendre aujourd'hui ce que nous vivons. Puis la Bible nous dit dans un autre verset que c'est le seul être humain qui est venu sur cette terre dans une nature comme la nôtre qui a commis aucun péché. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » La différence qu'il y a entre nous et Jésus, c'est que c'est pas dans le fait qu'il y a eu un corps surnaturel, pas du tout. Il y a un corps 100% comme le nôtre, puis il a été tenté en toutes choses. Tout ce que nous vivons comme tentation, il les a eues, sauf qu'il n'a jamais désobéi à Dieu. Il n'a jamais laissé son corps gagner sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit, puis il a combattu, puis il a eu gagné la victoire. Puis à cause de sa victoire, maintenant, il sait qu'est-ce qu'on vit, puis il peut compatir à nos souffrances, à nos combats, à nos luttes, à nos tentations. Il sait qu'est-ce que c'est. Maintenant, Jésus, quand, comme je l'ai dit l'autre verset avant, il est venu pour faire l'expiation. Puis là, il fallait qu'il vienne aussi pour connaître ce qui en était de la vie d'un humain sur la terre, pour pouvoir comprendre ce qu'on vit, puis pouvoir avoir de la miséricorde, de la pitié envers nous qui vivons dans cette situation-là. Maintenant, Jésus, vu qu'il était le seul qui a marché sans péché, il connaît donc le chemin pour nous rendre libres. Il y a eu une vie 100% comme la nôtre, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait que ça l'a rendu libre, qu'il n'a jamais succombé dans le péché. Puis à cause qu'il l'a fait, cette vie-là, il peut nous montrer le chemin, comment y arriver.
Amen. Amen.
Oui, il peut nous montrer le chemin pour y arriver. Il sait qu'est-ce qu'on passe à travers des tentations, mais il sait aussi comment est-ce qu'on peut éviter les tentations. Il sait aussi comment, c'est quoi qui est nécessaire à l'être humain pour avoir la victoire dans sa vie. Puis il veut nous rendre victorieux. Il a accompli l'expiation, mais il va accomplir beaucoup plus que ça dans nos vies. Il veut pas juste nous pardonner. Il veut nous transformer. Maintenant, à cause de son œuvre, là, on a une occasion d'être pardonné de nos péchés, puis de repartir à zéro. On était tous pognés dans le péché, puis il dit, je le sais que ce que vous vivez. J'ai passé par là. J'ai pitié de vous autres. Puis je veux vous aider à vous en sortir. J'ai accompli sur la croix ce qui était nécessaire pour que tu puisses être pardonné, lavé de tous tes péchés, puis recevoir quelque chose en toi qui va te donner d'être une nouvelle créature. Une nouvelle création, avec une puissance qui va être en toi et sur toi, puis que tu vas avoir ce qu'il te faut pour suivre le même chemin que moi j'ai suivi. On a reçu la même chose que qu'est-ce que Jésus avait en lui qui a fait qu'il n'a pas tombé dans aucun péché. C'est quoi qu'on reçoit quand on se convertit? Le Saint-Esprit. Acte 2:38, quand il a fait l'appel pour la repentance, les gens avaient le cœur touché à la prédication de la parole, puis ils savaient qu'ils étaient pécheurs, parce que Pierre est en train de leur dire, « Vous avez crucifié le Seigneur, toute la patente. » Ils se reconnaissaient, ils avaient le cœur touché, puis là, il leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout est là. Tout ce qui est nécessaire pour qu'un chrétien puisse marcher dans la victoire est dans le Saint-Esprit. C'est lui qui veut prendre le contrôle de notre vie. C'est lui qui veut faire mourir les actions de notre corps, qui veut nous régénérer, nous transformer, nous rendre libres. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Il faut réaliser que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour qu'on puisse marcher dans une pleine liberté. Tout est là. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Là. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Mais il y a un verset. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. C'est ça que le verset. Jésus-Christ peut et Jésus-Christ veut nous affranchir pour que nous soyons libres. Pas libres de péché. Libres du péché. Parce qu'il y en a qui prennent la liberté puis ils disent, « Oh, moi, je suis libre maintenant, Jésus-Christ. » J'ai plus aucun règlement qui me gère. Je peux faire ce que je veux. Je l'ai déjà entendu. Ça crée quoi? Des désordres partout. Ça crée que les gens font ce qui leur passe par la tête, puis tout est, c'est correct. Non, c'est, hein? Ben oui. Jésus veut pas juste que nous soyons pardonnés lorsqu'on s'est converti. Il dit dans Jean au chapitre 13, il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Ben, quand on a été lavé en Jésus-Christ à notre conversion, t'es lavé. Mais après ça, qu'est-ce qui te reste à laver pour être entièrement pur? C'est te laver les pieds. Dans ta marche quotidienne de tous les jours, tu vas en refaire d'autres des péchés. Faut que tu te fasses laver les pieds encore. Puis Jésus a dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il est important qu'après qu'on soit converti, qu'on accepte de se laisser laver les pieds pour être entièrement pur. Ce que ça donne de bénéfique de recevoir le pardon des péchés, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à partir du moment que tu reçois le pardon, la communion avec Dieu est retrouvée. Cette communion-là que les premiers, Adam et Ève, ont perdu lorsqu'ils ont commis un péché, puis que l'ensemble de l'humanité vit au monde sans le Seigneur, il y a une seule manière de recevoir à nouveau cette communion à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour devenir son enfant, retrouver notre communion avec lui, il nous donne son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu entre en nous, cette communion est rendue réelle, palpable. Nous vivons des expériences de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. À cause de cela, nous le savons que nous avons franchit la porte. Quelle porte?
La bergerie.
Mais Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car je vous le dis, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Faut que tu trouves les deux. Faut que tu trouves la porte. Il faut que tu trouves le chemin. Tu trouves la porte quand tu vas à Jésus. Je suis la porte que Jésus a dit. Fait que tu rentres par la porte, mais il faut pas rester dans le cadrage de porte. Il faut marcher dans le chemin. Il faut trouver le chemin. C'est quoi ce chemin-là? Faut que tu trouves le chemin. C'est quoi le chemin? La parole de Dieu. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole à qui? De Logos, du grand Je suis, que le proclamateur, la parole a été faite chair. C'est Jésus-Christ, le Verbe, dans d'autres traductions. C'est la parole, il a été faite chair. Puis il est venu, puis il dit, c'est ma parole qui va juger le monde au dernier jour. Cette parole-là va demeurer éternellement. C'est ça le chemin. Quand tu marches dans la parole de Dieu, tu marches, tu demeures en Jésus. Tu demeures dans ta communion avec le Père. Puis sans cette communion, tu peux pas porter de fruits. Faut que tu restes greffé au cèpe. Tu marches avec le Seigneur, puis tu persévères dans l'obéissance à sa parole, ça te garde dans le chemin. La minute qu'on commence à transgresser sa parole, que tu sois, peu importe que tu aies le titre de pasteur, que tu sois un grand prédicateur ou une personne qui donne sa chemise pour aider les pauvres, si tu transgresses sa parole, tu viens de pécher. Tu sors du chemin. C'est pas long que tu vas en faire, puis un t'emmène à l'autre, puis après ça, t'en refais un autre. Puis comme Judas, qu'est-ce qui s'est produit? En premier, ça a juste la convoitise de prendre plus d'argent dans la bourse. Puis là, il a commencé à s'opposer au ministère des autres qui faisaient des dons, comme d'un qui avait, une femme qui avait donné le vase de l'Albâtre qui ça valait 300 deniers. Puis il voulait l'argent qu'il y avait là-dedans ça. Lui, il voulait pas. Tu sais, il pensait qu'à l'argent, puis après ça, il a eu le plan, dû inspiré par le diable, d'aller vendre Jésus. Même s'il en parlait dans l'Ancien Testament qu'il y aura un traître, que celui qui a mangé le pain avec moi levé le talon contre moi, puis qu'il y a d'autres versets qui font que. Hein? C'était. Dieu avait averti d'avance que le diable viendrait inspirer. C'est pas Dieu qui a fait le plan. Mais Dieu le voyait, cette chose-là, d'avance. Parce que Dieu ne tente pas. C'est, ça dit dans le verset, c'est le diable qui l'a inspiré dans le cœur de Simon Iscariote. C'est pas Dieu qui a fait que le diable, que Judas tombe dans ce plan-là. Il a obéi à l'ennemi. Lui-même. Il s'est livré. Il a pas étouffé ses convoitises puis fait mourir les actions de son corps. Puis dire là, c'est pas à moi cet argent-là, j'ai pas d'affaire de chasse ça, puis c'est pas de Dieu que j'ai le dépenser, de conquérir l'argent du groupe. Puis il aurait pu résister contre ses péchés, puis pas s'y livrer. Mais il a été attiré et amorcé par sa propre convoitise, qui ça l'entraînait où? À la mort. C'est grave. Il n'y a pas de jeu, il ne faut pas prendre ça à la légère, le péché. Dieu ne trouve pas ça drôle quand on pêche. Il y a des conséquences terribles. Maintenant, à cause du pardon de nos péchés, il y a une couverture spirituelle, il y a une purification qui est maintenue sur nous par le sang de Jésus. Vous allez voir ça dans 1 Jean 1, 7. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu le pardon, tu as reçu le Saint-Esprit, puis là maintenant, il y a une couverture spirituelle qui est sur toi. Faut que tu demeures sous cette couverture. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, mais tu reconnais.
Tu vas faire la différence.
Tu vas reconnaître que faut que je me repente à chaque fois que je succombe. Je demeure sous le sang de Jésus à ce moment-là. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire. Si tu gardes ta communion avec en marchant dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est de marcher à jour avec le Seigneur. Chaque jour, faut que tu fasses le point. Si tu caches des affaires, oh ben moi j'ai des péchés cachés là, puis là j'en parle pas à personne, puis là je veux vivre mes péchés. Mais ça c'est les ténèbres. Et celui qui pratique le péché marche dans les ténèbres. Mais si tu marches dans la lumière, ça veut dire tu réalises que tu as fait un péché, tu confesses ton péché à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu, tu lui dis, Seigneur, j'ai cette faiblesse-là. Puis Dieu, qui est compatissant, il a de la pitié, il a de la miséricorde, il a le désir de vouloir nous tendre la main, nous aider à marcher dans notre marche. Il nous pardonne parce qu'on y confesse. Pas parce qu'on est parfait, parce qu'on y confesse. Puis qu'on veut s'en sortir, il voit notre cœur, puis il va nous donner l'aide qu'il veut qu'on a de besoin. On continue. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est point en nous. C'est là qu'on rentre dans l'idée, Paul il dit, je veux faire le bien dans l'homme intérieur, mais il y a une autre loi, la loi du péché qui est là, puis qui m'en fait faire encore. Qu'est-ce qui va me délivrer de tout ça? Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, là, sa mort sur la croix, ça me donne accès à me présenter à Dieu puis demander pardon à chaque fois que j'en refais d'autres. Puis Dieu sait qu'on a une nature qui va en refaire d'autres demain matin. Mais on restera pas dans cet état-là parce qu'on va crier à Dieu puis on va lui demander de l'aide. Puis le Seigneur va nous pardonner. On est à jour puis on demeure dans la lumière. Puis là, il dit, si nous confessons nos péchés, le verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il veut pas juste nous pardonner, il veut nous amener à nous purifier de l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice qu'on a en nous. On a une nature qui peut pas plaire à Dieu. Peu importe ce que tu vas essayer de faire par ton corps physique, ça plaît pas à Dieu. Les seules choses qui plaisent à Dieu, c'est quand tu demeures dans la lumière, puis tu demeures en communion. Puis là, tu te mets à jour avec le Seigneur, tu confesses tes péchés, tu lui demandes de l'aide pour t'en sortir. Puis là, il dit, le Saint-Esprit t'en cause sur toi, puis il va t'aider. Il fera pas juste te pardonner. Il te purifie de ce que t'as fait, ta souillure, ton péché, puis en plus, il t'en libère, il t'en délivre. Ça, on le voit dans un autre verset. Le Saint-Esprit nous libère des conséquences de nos péchés, puis il brise les effets du péché. Ça, c'est... OK, c'est la suite de Romains 8. Euh, ça commence à la fin du verset 7, la fin du chapitre 7. C'est tout de suite après là que misérable du verset 24, là tu t'en vas au verset 25. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis sur la chair, par la chair, esclave de la loi du péché. 8:1, c'est là qu'est la victoire qu'on a en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, pour vous expliquer ça plus, ben c'est clair, mais je vais vous donner d'autres explications. T'as accepté le Seigneur, il t'a pardonné tous tes péchés, il t'a donné le Saint-Esprit. T'as en toi la nature du péché, ton corps est en cours à tirer. Puis ça te donne des conséquences quand tu pêches. Mais quand tu arrives et tu demeures en Jésus-Christ parce que tu as accepté le Seigneur, il t'a pardonné, tu es couvert par le sang de Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tant que tu demeures dans la présence de Dieu, à jour, dans la lumière, il y a une puissance, une nouvelle loi spirituelle maintenant qui travaille sur ta vie. La loi de l'esprit et vie. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, cette nouvelle loi d'esprit-vie? Elle t'affranchit de la loi du péché et de la mort. À partir du moment que tu es un enfant de Dieu, que tu es sincère dans ce que tu fais, tu marches dans sa parole, tu confesses à mesure les choses, le Seigneur, il dit, tu n'as plus de condamnation, tu es en Jésus-Christ. Tu es libéré des conséquences du péché. Ça ne veut pas dire que tu es rendu parfait. Ça dit que tu marches à jour avec lui. Tu es honnête. Tu confesses tes affaires, tu demeures en lui, il te pardonne, il te purifie, il t'aide à changer, il te libère des conséquences du péché. T'es plus dans le sens à être esclave de tes péchés comme qu'on était avant. Il y a d'autres versets qui en parlent, mais je les ai pas toutes sortis, il y en avait trop. Le Saint-Esprit, le fait qu'il est en toi, t'amène à rendre neutre ou impuissante la loi du péché. Tu peux apprendre à marcher dans une nouvelle liberté, affranchi du péché, puis esclave de la justice. Tu as pu livrer ton corps au péché comme avant. Il y a une nouvelle puissance qui est en toi qui peut t'aider à t'en sortir complètement. L'important, c'est qu'il faut que tu réalises que cette puissance-là est là, puis qu'il veut faire cela. Si on n'en parle pas, puis on y croit pas, ça marche pas. Tu n'auras pas d'attente d'être libéré, d'être délivré, puis être affranchi, puis que les chaînes de tes péchés soient cassées. Mais si tu y crois que tu as reçu le Saint-Esprit, puis c'est une nouvelle loi spirituelle que tu as reçue, la loi de l'esprit et vie, va t'affranchir de la loi du péché. La loi du péché, c'est j'ai le péché en moi, je suis toujours attiré à aller vers le péché. Mais quand tu es en Jésus-Christ, il y a une nouvelle nature qui est en toi, puis ça te brise ces chaînes-là. Tu peux, si tu le crois, faire mourir, par le Saint-Esprit, faire mourir les actions de ton corps. Il dit ça, je le lis dans l'autre verset justement. Il nous libère ensuite de nos chaînes, nos liens, puis nous rend libres face au péché. Ça, on voit ça dans Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il parle à des chrétiens, là. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Là, on l'a reçu. À ceux qui l'ont reçu, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est ceux qui marchent par l'esprit qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu. Il faut apprendre à marcher par l'esprit, frères et sœurs. Faut plus écouter notre chair, faut plus écouter le diable, faut plus écouter le monde. C'est possible de marcher. Il dit, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Un autre verset dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons tendre à cette perfection. Puis le Saint-Esprit, en tout cas, dans ma vie, il a changé beaucoup d'affaires. Il y a encore de l'ouvrage, mais il en a changé beaucoup. Puis on combat encore Ma femme dit amen. Puis Ananko a changé. Puis c'est lui qui a commencé l'œuvre. Et celui qui a commencé l'œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le sceau complet de notre victoire ou de notre délivrance, ça va être le jour où il va nous donner un nouveau corps. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Un jour, nous allons quitter ce monde. Puis c'est un avantage pour chacun de nous de quitter ce monde. Puis quand on va être rendu l'autre bord, on va être dans l'attente un petit peu, le temps que Jésus revienne, ça soit l'heure de son retour. Là, il va nous redonner un nouveau corps, un corps éternel, puis nous serons toujours avec le Seigneur. Puis ça va être fini, ce combat-là contre le péché, puis le risque de se détourner de Dieu. Oui. Maintenant, si vous vivez par l'Esprit, puis vous voulez vivre par l'Esprit, le Saint-Esprit va nous amener à confesser des choses, puis il veut faire mourir les actions de notre corps. Il veut nous rendre, nous transformer d'image en image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il dit, on fait face à la parole de Dieu, on regarde au moyen d'un miroir notre visage naturel, mais nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, plus qu'on remet les choses dans les mains du Seigneur en demeurant à jour avec lui, plus que nous, il nous transforme pour nous rendre de plus en plus comme son Fils Jésus-Christ.
Amen.
Amen. Qui me délivrera du corps de cette mort? Tout est accompli en Jésus-Christ. Tu peux l'accepter comme ton sauveur personnel, puis avoir l'assurance que tu es pardonné. Puis tu vas recevoir dans ce moment-là le Saint-Esprit, une nouvelle nature, une nouvelle puissance qui va te conduire à marcher dans la liberté de tes péchés. Ensuite, le Saint-Esprit cède la parole de Dieu, comme je viens de vous le mentionner dans le verset, puis parce que la parole de Dieu est puissante, est vivante, est tranchante, elle pénètre, puis elle agit, puis elle nous régénère. Elle nous régénère, elle change nos gènes, notre génétique de pécheurs, elle nous met la génétique de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la semence de Dieu en nous. Nous pouvons marcher dans la gloire d'enfants de Dieu sur cette terre. Dans 1 Pierre 1:23, ça nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous avons tout à notre disposition pour pouvoir marcher dans cette liberté. C'est extraordinaire. Puis merci Seigneur de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui dans cette nouvel état-là. Puis je vais faire une prière pour celui qui n'aura jamais accepté Jésus-Christ puis qui veut le faire maintenant. Je fais une prière pour que celui qui entend ce message puis qui est touché par ce message puis qui réalise « c'est vrai ». Je veux faire le pas, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux que cette nouvelle vie soit agissante dans ma vie. Je veux marcher dans la gloire d'être un enfant de Dieu. Faites cette prière avec moi d'un cœur sincère. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, que je mérite rien, mais je sais que Jésus-Christ a tout accompli, qu'il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné et être purifié de tous mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre et te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Et conduis-moi dans le chemin de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu. Dieu pardonne tes péchés, donne le Saint-Esprit, que une nouvelle vie vient de commencer. Apprenez à marcher par l'Esprit. Gardez la foi en la parole de Dieu. Persévérez dans la foi jusqu'à la fin. Puis nous allons être tous ensemble un jour réunis dans le royaume de Dieu. Fini les combats, fini les souffrances, les luttes, tout ça à cause de Jésus-Christ. Amen.